25 mars, à rencontre spirituelle. C'est aussi le mardi saint. Et le 25 mars, c'est la fête de l'Annonciation. Le moment où Marie conçoit dans son sein le Fils éternel de Dieu. Exactement 9 mois avant Noël, le 25 mars. On fête pas tout à fait aujourd'hui l'Annonciation, mais c'est curieux que la liturgie du jour, qui est la liturgie du mardi saint, en parle malgré tout. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. En effet, la première lecture à la messe aujourd'hui dans toute l'Église catholique de rite latin à travers le monde entier, dans des milliers d'églises, des milliers d'assemblées de chrétiens aujourd'hui, on va entendre cette lecture du livre d'Isaïe, qui date de centaines d'années avant l'Annonciation. « J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. » C'est très symbolique, très poétique. Mais aussi, c'est très vrai, j'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Et un peu plus loin dans le même texte, il est dit, « Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur. Oui, j'ai dû prier aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. » Puis dans le psaume qui suit, il est dit, un peu avant la fin, « Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. » C'est curieux que ça tombe bien. Hein? C'est en rapport avec l'Annonciation. Parce qu'en Marie, par une marque toute spéciale d'amour de Dieu, mais l'image primordiale, justement, de Dieu est demeurée intacte. Hein? Elle n'a jamais péché. Elle est limpide comme une eau pure. Seule parmi toutes les créatures, elle a reçu cette faveur en prévision d'une autre faveur encore bien plus extraordinaire, et la grâce de devenir la mère, oui, la mère du Verbe incarné. Tel est le mystère essentiel de Marie que l'on célèbre aujourd'hui, celle qui a tant aimé et celle qui est tant aimée de Dieu. Adam et Ève, si vous voulez, tout homme et toute femme, ont cédé, on peut dire, à la séduction du démon. Ils ont quitté, on a tous quitté, la pureté de notre nature. Marie, au contraire, n'en est jamais sortie. Elle n'a jamais été séduite ni par le démon, ni par le monde, et ni par elle-même, car nous sommes souvent séduit par nous-mêmes, notre égoïsme. C'est notre plus grand péché, notre plus habituel. C'est souvent le fruit de la fatigue, de l'épuisement. Mais ça n'est pas nécessaire de s'excuser. Ça ne veut pas dire, quand on proclame la Vierge immaculée, qu'on ne veut dire autre chose. C'est cela. Elle est pure. Marie est toute pure en sa nature première, telle qu'elle est sortie du cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu s'y écoule, on peut dire, en toute liberté. C'est ce que dit le père Yves Raguin, dont je m'inspire. En Marie, la source de vie, qui vient de Dieu, est toujours limpide. Puis rien ne s'y mêle qui la trouble. Si limpide qu'elle ne le sait même pas. Si elle le sait, bien c'est comme si elle ne le savait pas. Comme la lumière, elle irradie. C'est pas nécessaire pour Marie de faire un grand effort pour saisir qu'elle vient de Dieu. Ce qui est si dur pour nous et pour Marie tout simple et tout naturel, hein? Oui, elle est demeurée limpide. Et quand l'ange se présente, Marie ne semble pas craindre. Mais quand il la salue en disant « Sois joyeuse, hein, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » C'est le « Je vous salue Marie hein. ».« Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » Marie se demande ce que cela veut dire. À ces mots, dit le texte, hein, elle fut très troublée. C'est dans Saint-Luc, hein, dans le premier chapitre, l'Évangile de Saint-Luc. Si elle est très troublée, c'est qu'elle ne s'attendait pas à une telle salutation qui lui fait soudain prendre conscience qu'elle est aimée de Dieu d'une manière toute particulière. C'est cela qui la trouble. Jamais, jamais, elle n'aurait osé imaginer une chose pareille. Et si l'ange lui dit d'être sans crainte, c'est évidemment parce qu'elle a été un instant troublée, mais l'ange la rassure. Hein? Il lui répète en d'autres termes ce qu'il lui a dit déjà. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Marie n'est pas la première personne dans l'histoire humaine à trouver grâce devant Dieu, c'est sûr. Mais elle a trouvé grâce devant Dieu d'une manière tout à fait exceptionnelle. Pendant qu'elle écoute ses paroles, une lumière intérieure la pénètre et l'éclaire. Et déjà, l'Esprit agit en elle pour lui faire comprendre le sens de ses paroles qui lui sont dites de la part de Dieu. Soudain, elle prend conscience de leur profondeur. Nous, quand on entend la parole de Dieu, est-ce qu'on en saisit toute la profondeur? Est-ce qu'on cherche à être conscient comme elle? Je vous raconte tout ça, c'est parce que nous devrions l'imiter. Or, Marie voit que tout cela est vrai. Et nous, savons-nous que l'Évangile est vrai? Ce n'est pas elle qui la découvre. C'est sa propre plénitude de grâce qui se manifeste à elle. Oui. Elle prend conscience que tout ça est vrai. Comme dans un éclair jailli du fond d'elle-même, elle se saisit pleine de grâce, aimée de Dieu. Et nous aussi, nous sommes aimés de Dieu, mais nous ne sommes pas pleins de grâce. Mais nous avons la grâce. Elle le croit. Le croyons-nous? Elle le croit sur la parole de l'ange et immédiatement, cela devient une expérience et Marie se voit, se sait et s'aime, tout aimée de Dieu. Oui. Elle s'aime, tout aimée de Dieu. Nous devons nous aimer car nous sommes aimés de Dieu. Et aussitôt, après l'avoir salué puis rassuré là, sur le sens de sa salutation, l'ange reprend, hein, c'est dans Saint-Luc. « Voici que tu vas être enceinte. Tu vas enfanter un fils et tu vas lui donner le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Oh, Marie comprend que cette annonce va se réaliser dans l'instant même. C'est pourquoi elle demande simplement comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme, puisque je n'ai jamais couché avec un homme, quoi, pour être plus cru, plus dur. Mais ça, je l'explique pour que les gens comprennent. Elle fait simplement remarquer qu'elle n'a pas de relation conjugale, en somme, avec Joseph, à qui elle est promise en mariage. Elle a une tête sur les épaules, quoi. Nous, on peut interpréter sa réponse comme une décision de demeurer vierge dans le mariage même. Mais pour le moment, on peut se contenter de l'affirmation de fait. Hein, « Je n'ai pas de relation conjugale avec un homme. » À la question bien simple de Marie, l'ange répond, là, d'une manière aussi simple, hein, vous vous souvenez, « L'Esprit-Saint viendra sur toi, mais la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. » Et là, c'est pas n'importe qui qu'elle va attendre. Et elle la sait. Elle comprend qu'elle va être la mère de Dieu. C'est rien de superflu dans ce langage. C'est simple. C'est une simple annonce faite à Marie de la part de Dieu. C'est pas compliqué. C'est une annonce de ce qui va s'accomplir en elle. En elle. Maintenant que Marie a fait l'expérience au plus profond d'elle-même, qu'elle est aimée de Dieu, alors tout est simple. Elle va concevoir. D'une manière insolite, c'est sûr, mais par une action particulière de Dieu, qui maintenant lui paraît comme allant de soi. Alors, du côté de Dieu, c'est l'expression d'une puissance qui se manifeste sans action théâtrale. Du côté de Marie, il n'y a pas d'extase, il n'y a pas de pâmoison. Elle ne s'énerve pas. Tout dans cette rencontre est d'une simplicité, moi qui me déconcerte, et je trouve ça si beau. Pour Marie, tout semble aussi simple que pour Dieu, maintenant qu'elle a saisi à quelle profondeur elle est aimée. Marie est vierge. Elle vient de le redire à l'ange, et c'est pourquoi Luc introduit le récit de l'Annonciation par ces mots. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille, accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. C'est simple, c'est clair. Tout est dit en fonction de la réalité. Marie est vierge. Elle ne l'est pas principalement parce qu'elle ne connaît pas d'homme, mais parce qu'elle connaît Dieu. Et que Dieu la connaît d'une façon telle qu'elle ne peut qu'être vierge pour toujours. C'est la qualité unique de cette relation au Père, par la vertu de l'Esprit-Saint, qui la fait toujours vierge. Marie est unie au Père, source de toute vie, comme nous le sommes, nous, mais elle, d'une façon si particulière, par des liens tellement uniques qu'il est difficile de concevoir comment elle aurait pu ne pas demeurer vierge dans son mariage. On peut dire que son acte de totale disponibilité à Dieu postule en quelque sorte que Marie soit vierge pour toujours. Marie, maintenant, n'a pas besoin de preuves autres que celles que l'Esprit-Saint lui donne au plus intime d'elle-même. Et cependant, pour la rassurer puis pour lui faire savoir à qui aller, si elle veut parler à quelqu'un de ce qui lui arrive, l'ange ajoute comme en passant, « Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi est enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Et elle est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie n'avait pas besoin de ce témoignage pour l'aider à croire à la parole de l'ange. Cependant, elle va partir immédiatement voir sa cousine. Elle avait quelqu'un à qui parler. Il n'était pas question d'en dire un mot à Joseph pour l'instant. Alors Marie a pris conscience de l'amour de Dieu pour elle et sa propre pureté originelle. Elle put alors dire, sans faire de façon, sans jouer à l'humilité, là, mais dans un acte de totale soumission d'amour à l'amour de son Dieu, elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe comme tu l'as dit. » Elle donne ainsi son accord. Son accord à cet acte de Dieu en elle, qui va la faire la mère de son fils. Ce grand mystère est accompli, puis l'ange la quitte. Quand l'ange explique à Marie ce que sera son fils, il se sert des termes qui sont familiers à tous les Juifs, hein, qui connaissent leur tradition religieuse. L'important ici, c'est pas de savoir si et comment le dialogue a été imaginé par l'évangéliste Saint-Luc, là. Dieu ne parle pas en paroles humaines. Il s'agit de recevoir le message que le dialogue veut nous faire saisir. La réalité que Dieu lui-même a voulu faire comprendre à Marie dépasse infiniment les mots que Luc a transcrits pour nous le révéler. Et à la question de Marie, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge, c'est-à-dire puisque je n'ai pas de relation conjugale avec un homme, ben l'ange répond en lui expliquant comment elle va concevoir et l'enfant qui naîtra d'elle ne sera pas le fils de Joseph, il sera conçu par l'action spéciale de l'Esprit-Saint, qui est la puissance même de Dieu agissant dans la création. Et nous, si nous nous soumettons aussi à l'action spéciale de l'Esprit-Saint, le Christ apparaît en nous, devient vivant en nous, comme saint Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et c'est ça la sainteté. Et c'est de l'Esprit-Saint, souffle primordial de Dieu, que Marie va concevoir. Et c'est pourquoi cet enfant sera saint et sera appelé fils de Dieu d'une manière toute particulière. C'est ce que l'évangéliste veut nous faire comprendre. On trouve parfois exprimé l'idée là, que Jésus pourrait bien être le fils de Joseph, que c'est pas grave, ça changerait rien. Ce serait une conception humaine, quoi. Et puis, fils de Dieu d'une manière toute particulière, par une action spéciale de l'Esprit-Saint, que c'est pas nécessaire. En soi, ce serait possible, puisque rien n'est impossible à Dieu, quoi. Mais, ce n'est certainement pas ce que le récit de Saint-Luc veut nous faire entendre. Je préfère me soumettre simplement au récit de Saint-Luc. Par fidélité au texte, par l'intention de l'auteur, me semble qu'il est plus loyal de prendre le message dans toute sa violence. Oui, sa violence, dans un sens. Jésus a été conçu d'une manière unique. Et si tout être humain est enfant de Dieu, Jésus l'est, lui, d'une manière absolue. Là, c'est la puissance du message. C'est là que ça se cache. N'oublions pas que nous tous, nous sommes aussi enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait dès notre conception, ça c'est sûr. Mais Jésus, c'est d'une façon particulière. Faut pas s'en étonner. Dans toutes les religions du monde, au plus profond de la nature humaine, il y a un désir qui dort là, de découvrir que l'on est non seulement d'origine divine, mais Dieu lui-même. Et c'est là un des, ce qu'on appelle des archétypes essentiels, enfouis au fond de notre être. Et pourquoi dès lors ne pas nous réjouir, nous, chrétiens, catholiques, de rencontrer sur notre chemin quelqu'un qui pourra un jour nous dire « Ce que vous rêvez d'être, je le suis. » Et en Jésus, le rêve de l'humanité entière se réalise. Ce fait extraordinaire nous semble pour nous des conséquences inouïes, mais véritables, et en Jésus, nous devenons ce qu'il est, des fils uniques et bien-aimés du Père. Revenons à l'ange Gabriel. L'ange ajoute quelque chose d'important. Hein. Il dit à Marie, « Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Je vous l'ai lu tout à l'heure. Mais ça, c'est important. L'enfant qui va naître de Marie est l'héritier de toute la tradition humaine et spirituelle d'Israël. Tout cela est indispensable pour aider Marie à comprendre ce que va être son fils. Peut-être qu'elle a vu défiler dans son esprit des souvenirs de grandeur. Hein? C'est normal, une jeune fille de son âge. Cela n'est pas impossible, puisqu'elle savait que son enfant serait grand, mais elle avait quand même du mal à réaliser ce que serait son enfant. Elle va être dans une certaine incertitude. C'est comme nous, si nous nous convertissons vraiment, comme on l'a vu hier pour Mgr Romero, qu'est-ce qui nous attend? Nous attend des tas de gens qui peut-être vont nous téléphoner pour nous faire perdre notre temps, des gens qui vont nous agacer, nous demander des tas de choses. C'est épuisant, mais il faut passer à travers, c'est pas facile. Et tout cela était nécessaire pour pouvoir concevoir son fils dans son esprit puis dans son cœur avant de le concevoir dans sa chair. Et ce fils de Dieu serait vraiment homme, un fils d'Abraham, un enfant d'Israël, son fils à elle. Elle va lui façonner un corps, comme toute autre mère le fait pour son enfant. Certains pensent que la vie humaine de Jésus a commencé à sa naissance à Noël. Mais nous, au XXe siècle, nous savons, grâce aux médecins et aux scientifiques, ils nous le disent, que longtemps avant même que Marie ne ressente les mouvements du fœtus de Jésus, celui qu'elle portait, eh bien, se réveillait. Il dormait, il bougeait, il regardait, il avalait. Ben oui, il respirait, il hoquetait, il digérait. Jésus entendait dans le sein de sa mère. Il essayait de crier. Il pouvait sentir la douleur. Il pliait ses doigts. Il donnait des coups de pied. Il frappait, puis même il suçait son pouce et même ses orteils. En toutes ces activités de Jésus, ça se produit pour chaque enfant durant la première moitié de la grossesse, qui dure 9 mois, je vous le rappelle. La plupart des grossesses ne sont pas décelées avant la 6e semaine, c'est-à-dire 1 mois et demi. Hein? Et à ce moment, le cœur de Jésus battait déjà depuis 3 semaines le cœur de Jésus. Les ondes cérébrales auraient pu être observées, les ondes cérébrales de Jésus. Son système nerveux était formé depuis environ 2 semaines. Il était à la veille de commencer à bouger, mais si Marie ne le sentait pas, c'est pas surprenant. Elle ne le sentait pas avant le 3e mois et demi. À la 8e semaine, moins de 2 mois, le squelette de Jésus, sa tête, ses bras, ses jambes, ses doigts, et même ses empreintes, ses orteils, le système circulatoire, puis la plus grande partie de son système musculaire était formée, et tous ses organes étaient en état de croissance. Puis à la 12e semaine, c'est-à-dire quand Jésus avait moins de 3 mois, bien, Jésus a laissé paraître son individualité propre, hein, à la fois dans son physique, puis dans son comportement. Oui, avec des expressions de son visage, de sa sainte face, déjà, qui ressemble à celle de sa mère, Marie. À la 16e semaine, disons un peu plus de 3 mois et demi, ses cils à Jésus ont poussé, et quelques jours plus tard, les racines de ses 20 dents de lait sont en place. Par la 20e semaine, à 4 mois et demi, les cheveux de Jésus apparaissent sur sa tête, sa petite tête. À la 22e semaine, c'est-à-dire à 5 mois, Jésus peut enfin ouvrir ses yeux. Les scientifiques sont d'accord que la vie de Jésus, comme celle de tout enfant, commence à la conception que l'on fête aujourd'hui, le 25 mars. Un très grand professeur de renommée mondiale en physiologie prénatale, le Dr. Lilly, a bien déclaré que biologiquement, à aucun stade de développement, nous ne pouvons affirmer que l'enfant en gestation ne fait qu'un avec la mère, vraiment pas. Non, génétiquement, la mère et le bébé sont des personnes distinctes depuis la conception. C'était donc Marie et déjà Jésus à partir d'aujourd'hui. 2. Dans le magazine Life, dans un grand numéro qui s'appelait « Le drame de la vie avant la naissance », c'était écrit « La naissance d'un être humain arrive réellement au moment où la cellule maternelle est fertilisée par un des spermes paternels, c'est-à-dire à la conception, et dans le cas de Jésus, c'est cette cellule qui a été fécondée par l'Esprit-Saint. Et à la conception, un être unique génétiquement commence à vivre et toutes les caractéristiques de l'enfant, que l'enfant va avoir, devenu adulte, sont déjà déterminées, incluant la couleur des yeux, la pigmentation de la peau, le sexe, le potentiel intellectuel. Alors Jésus était déjà là, tout programmé, si on peut dire. Et la nouvelle vie de l'être humain va consister en un processus continuel de croissance. Du 25 mars jusqu'au 25 décembre, c'est ce que nous fêtons liturgiquement, ce sont des dates liturgiques, ce ne sont pas des dates historiques, mais il y a 9 mois quand même. Eh bien, le développement de Jésus commence à cet instant, puis va se poursuivre dans son enfance, dans son adolescence, dans sa maturité, puis la mort. Et tout ce qui est requis, c'est une alimentation, puis un temps pour croître. Pour Jésus, un peu plus de 30 ans, 35 ans, 33 ans, 37 ans, on n'est pas sûr. La vie de Jésus n'a pas commencé, évidemment, à sa naissance, non. Pas Noël. La naissance, c'est seulement un changement du lieu de résidence d'un être déjà vivant et actif. Et Jésus était présent durant 9 mois dans Marie. C'est sûr. Nous savons que trop, ce qu'une certaine dévotion chrétienne a fait de Marie. Mais nous ne portons pas assez d'attention à ce que Dieu a fait d'elle. Or là est l'essentiel, et des générations ont essayé de savoir ce que Dieu a fait par elle, comment il a témoigné par Marie son amour à l'humanité entière, et plus spécialement à ceux qui croient en son Fils. Mais nous n'avons peut-être pas assez porté attention à ce que Dieu a fait de Marie. Je sais que c'est un mystère que nous n'arriverons jamais à sonder, mais nous pouvons au moins nous asseoir sur la margelle du puits, puis contempler. Contempler sur la surface le reflet du ciel. On va le voir tout à l'heure dans la prochaine demi-heure. Le mystère qui s'est opéré en Marie, que je viens de vous décrire, fruit de l'action de Dieu, s'est accompli au plus profond, évidemment, de l'être de Marie. Cela suffit à le rendre assez inaccessible. Mais par ailleurs, ce que Dieu a fait d'elle, c'est un acte de Dieu qui nous dépasse encore plus. Mais Marie, c'est toujours un être humain, c'est un être humain. Et c'est pourquoi, en regardant tout d'abord au plus profond de notre être, et ensuite au plus profond du sien, nous pouvons entrevoir quelques lueurs. Dieu a fait en Marie de grandes choses, et nous aussi, en nous, il a fait de grandes choses. Que celle qu'il a faite en Marie, sans doute. Mais tout de même, de l'action de Dieu en nous, nous pouvons soupçonner un peu l'action de Dieu en elle. Nous touchons ici à un des problèmes fondamentaux de la connaissance humaine, il me semble. Quelle tristesse de penser que nos jeunes ne connaissent rien de tous ces grands mystères, sauf exception. Il nous faut faire de grands efforts pour arriver à nous connaître nous-mêmes. Et encore, Nous restons au bord de l'abîme, mais pourtant il arrive que Dieu nous donne, comme dans une intuition là, immédiate, de saisir ce qu'il a fait de nous en nous créant. Dans sa lumière, tout à coup, notre regard intérieur plonge au plus profond de notre être, hein, au centre de celui-ci, et nous savons que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, et ainsi dans le tout début de la Bible, le 26e verset de la Bible, au premier chapitre. C'est ce qu'il a fait de nous. Heureux si Dieu lui-même nous donne dans sa lumière d'en faire l'expérience, hein. Être créé à son image, ça veut dire d'avoir une intelligence et une capacité d'aimer, une liberté relative, une liberté qui permet de poser des actes bons. C'est une expérience qui nous comble, au-delà de toute espérance, car nous la faisons dans les limites de notre être de chair. Or Marie, à la parole de l'ange, elle aperçut dans la lumière d'un instant ce que Dieu avait fait d'elle. Qu'est-ce qu'il a fait d'elle? Une image aussi parfaite de lui-même qu'un être humain peut l'être. En un instant, elle a été attirée en son centre, au plus profond d'elle-même, là où Dieu l'a faite ce qu'elle est. Et Dieu n'a pas fait de Marie un être surhumain, mais l'être humain parfait, l'être humain absolument vrai. Tous les mystiques du monde ont cherché à réaliser cet homme parfait, cette femme parfaite, cet homme vrai. Là. Marie n'avait pas à être refaite, elle n'avait pas à faire d'efforts. Elle était depuis toujours la vraie créature, la vraie femme. Dieu a d'abord fait d'elle la créature parfaite qui pourra devenir la mère de son fils. Mais une femme qui fait son lavage, qui fait ses emplettes, qui fait les choses ordinaires, c'est une femme parfaite, par grâce spéciale, merveilleuse, non parce que surhumaine, mais simplement parce que toute humaine est parfaitement vraie. La grâce dont elle est remplie, là, ne la met pas au-dessus de la condition humaine. Cette grâce-là agit au travers de toutes les fibres de sa nature humaine. Ce n'est pas un manteau qui la recouvre, mais un amour qui pénètre tout son être pour qu'elle puisse concevoir le Fils du Père. Tout ceci est une autre manière de dire qu'elle est immaculée et que le péché n'a pas effleuré un instant son être intime. En ce sens, elle est bien différente de nous qui savons par expérience ce qu'est le péché. Ce que Dieu avait fait de nous, les images vivantes de lui-même, nous l'avons gâché, au point de croire que c'est Dieu qui nous a fait méchants. Mais non, nous savons en regardant Marie que Dieu nous veut sans péché. Le péché est entré dans le cœur des hommes par l'usage mauvais qu'ils ont fait de cette liberté, du libre vouloir que Dieu leur a donné. Et en regardant ce que Dieu a fait de Marie, nous pouvons entrevoir ce que Dieu veut que nous soyons. Alors que pécheurs, nous disons souvent non, au lieu de dire comme Marie un oui total et absolu à Dieu. Quand Marie salue Élisabeth au moment de la visitation, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, l'enfant qu'Élisabeth porte, elle porte pas simplement un fœtus anonyme qu'elle peut jeter comme... Non, l'enfant qu'elle porte exulte dans le sein de sa mère. Élisabeth s'écrie, « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? » Ce que le Seigneur a fait de Marie, elle en a fait... Il en a fait sa mère, hein? Vraiment sa mère. C'est pas simplement que Dieu a rendu Marie capable de concevoir un enfant qui serait son fils à lui. Marie est vraiment sa mère. C'est cela que Dieu l'a rendu capable. Quel étrange titre. Que c'est admirable, que c'est beau. Marie est impliquée dans cette conception, puis dans cette génération du Verbe de Dieu, avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle est. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas simplement considérer ce que Dieu a fait par elle, ce dont il l'a rendu capable, comme si elle n'était qu'un simple instrument. Non, non, non. Il faut d'abord voir ce qu'elle est, elle. Dieu a fait d'elle vraiment sa mère. Puis la relation de Marie avec Dieu est celle d'une épouse à son époux, hein. Je vous en ai parlé l'autre jour en vous parlant d'un chartreux, vous souvenez-vous? Dieu est l'époux de notre âme. Quand Dieu a créé l'homme, Il a déjà engagé sa propre vie dans l'existence humaine. Mais maintenant, cet engagement est bien plus grand encore. Lors de la création, il s'est engagé dans cette existence spatiale, charnelle, temporelle, en tant qu'image de lui-même. Mais cette fois-ci, là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il s'engage lui-même d'une manière totale et absolue. C'est le Seigneur de toutes choses, le roi de gloire, comme on dit dans le psaume 23, qui par la médiation de Marie va vivre une vie d'homme. Et en une phrase, Saint Jean l'évangéliste l'a exprimé, ce nouvel engagement de Dieu dans une existence humaine. C'est écrit au début de l'évangile de Saint Jean, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Celui qui est la parole, il est devenu un homme, il a vécu parmi nous. La foi chrétienne a alors créé un mot qui répond à cette nouveauté. Ça s'appelle l'incarnation. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, l'incarnation. L'incarnation, c'est pas le jour de Noël seulement. C'est 9 mois avant. C'est à cause de la réalité de cette incarnation que Marie est dite mère de Dieu. Celui que nous appelons le Verbe de Dieu, là, parfaite expression de Dieu, notre Père. Celui dont Saint Jean nous dit qu'il était au commencement, qu'il était tourné vers Dieu et qu'il était Dieu. C'est lui qui prend chair dans le sein de la Vierge Marie. Tout cela est dans la logique des choses. Si tout fut par lui, s'il est depuis toujours la vie de toutes choses, puis la lumière des hommes et des femmes évidemment, il ne nous paraît plus possible qu'il fasse un pas de plus pour se faire homme. Nous touchons là au mystère de la relation de Dieu, Seigneur de toutes choses, avec l'homme, sa créature, et dans l'incarnation, Dieu s'engage. Oui, il s'engage à l'égard de l'homme dans une nouvelle relation qui est une relation d'amour, d'amour, d'amour. On ne dira jamais assez, hein? Et la clé de ce mystère est donnée par le Christ lui-même quand il dit à Nicodème, vous vous souvenez cette belle parole, « Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Quelle joie que de croire en lui. Quand on regarde le progrès de l'engagement de Dieu dans la vie du monde, on peut constater 3 étapes. La première est exprimée par Saint Jean quand il écrit du Verbe de Dieu, « Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. » Le 3e verset de son évangile. Ce genre de relation de l'absolu et du Créateur avec la créature, nous le retrouvons dans toutes les religions, dans toutes les doctrines de prière. Ben oui, exprimé par ces paroles, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et cette seconde chose, là, nous la trouvons réalisée et perçue dans la plupart des religions et des écoles spirituelles. On trouve ça dans le taoïsme philosophique et mystique, la notion qui nous est tellement familière de la lumière de vie. Un grand nombre de doctrines spirituelles de contemplation s'arrêtent à ce niveau de la lumière, cependant. Le fruit ultime de la contemplation est alors ce que j'appellerais une illumination, une entrée dans la lumière inaccessible, ce qui était tout à fait conforme à ce que la mystique et la foi chrétienne nous enseignent, mais, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Par l'incarnation, le Seigneur s'engage avec sa créature dans une relation beaucoup plus intime, au-delà de la vie puis de la lumière. Il crée avec l'homme une relation d'amour. Nous avons ainsi les 3 étapes de l'engagement divin. Il est Dieu de vie, il est Dieu de lumière, et finalement, Dieu d'amour. Et là, nous sommes au cœur de la fête de l'Annonciation. Certaines religions connaissent cette relation d'amour, mais pas toutes. Et sur ce point, le christianisme a fait faire à l'expérience religieuse de l'humanité un pas décisif. Quand j'entends les gens qui disent que toute religion se vale, voyons. Qu'il soit vie et lumière passe encore, mais que Dieu soit amour et qu'il puisse aimer sa créature, cela nous dépasse. Et pourtant, tel est le cœur du message du Christ Jésus. La première touche de ce message est tombée de la bouche de l'ange parlant de la part de Dieu. Sois joyeuse. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Ce message qui, comme la suite le montre, est un message d'amour qui prépare l'union d'amour de Dieu avec sa créature. le Christ, va le répéter sans fin, pour nous inviter à aimer le Père et à recevoir son amour, comme lui-même aime son Père et reçoit son amour. J'ai le goût de vous lire un texte de Martin Luther, oui, le grand réformateur qui malheureusement séparait l'Église. C'est très beau ce qu'il écrit. C'est écrit au XVIe siècle, comme vous savez, c'est là qu'il a vécu. Je vous ai déjà fait une émission sur Martin Luther. Il écrit « Rien ne saurait plaire à Marie, comme d'aller ainsi par elle à Dieu, comme d'apprendre par son exemple la confiance et l'espoir. Même si nous devions connaître le mépris et l'humiliation, soit dans la vie, soit dans la mort, ce qu'elle veut, ce n'est pas que nous allions à elle, mais que par elle nous allions à Dieu. Elle devrait et voudrait apparaître à tous comme une vivante preuve de la bonté de Dieu. Son plus cher désir à Marie est d'inciter les âmes à aimer Dieu, à le louer, à s'abandonner à sa providence. Toutes les âmes devraient pouvoir dire avec confiance « Vierge sainte, Mère de Dieu, comme il est consolant pour nous de voir que par pure bonté, Dieu a jeté les yeux sur ton humble condition et ton néant. Tu nous permets d'espérer que Dieu nous traitera un peu comme toi-même, et que malgré notre misère et notre indignité, il jettera sur nous aussi un regard bienveillant. » Mais oui, c'est Martin Luther. J'espère que je n'offense personne en lisant un beau texte de Martin Luther. Les protestants sont nos frères, mais séparés. Séparés. Marie était inconnue des autres et d'elle-même quand l'ange est venu la rencontrer. Et cette rencontre qui tient si peu d'espace dans l'histoire du monde, le temps et l'éternité se rejoignent à ce moment-là. C'est le moment le plus important de l'histoire de l'humanité et de l'univers, à mon sens. C'est un seuil comme il n'en fut jamais d'autre. Dieu va faire un pas étonnant, un pas qui vraiment nous dépasse. Déjà, en insufflant son esprit dans l'homme au temps de la création, Dieu avait fait une démarche merveilleuse. Mais maintenant, il s'engage non seulement dans notre histoire, mais dans notre condition humaine elle-même. Pourquoi l'a-t-il fait à ce moment-là, dans ce lieu-là, en envoyant un messager à cette jeune fille-là, qui s'appelait Marie, à Nazareth? On n'a pas tout à fait la réponse. Pourtant, il est certain que Dieu a fait une démarche. Je sais qu'il y a des exégètes que cette apparition d'ange gêne. Ça les fatigue. Mais par-delà le symbole puis l'imagerie dont nous ne pouvons nous passer, voyons donc la réalité. Dieu est venu vers Marie. Pourquoi Nazareth? Pourquoi en ce temps-là? Pourquoi cette jeune fille? Laissons-la, c'est pourquoi puis c'est comment qui nous dépasse. Acceptons, moi, je préfère accepter le fait qui seul, finalement, importe. Là. Dieu est gratuit. Ce moment-là, c'est le moment où se révèle pour nous la merveilleuse gratuité des actes de Dieu. Saint Paul a qualifié ce moment de l'histoire d'accomplissement du temps, dans l'Épître aux Galates. Le temps a fait son œuvre, puis l'humanité est prête pour cette démarche de Dieu, que nous appelons l'incarnation. Dieu accepte pour se manifester le rythme de l'histoire humaine. Le Christ aura son heure, qu'il attendra sans rien presser, c'est ce que nous allons célébrer en pleurant cette semaine. Jusqu'à ce point de convergence, du vouloir divin puis de l'histoire humaine, on va voir ça. Le Christ, tout fils de Dieu qu'il était, a accepté de vivre ce long cheminement qui, par la souffrance et la joie, l'a conduit jusqu'à son propre accomplissement. Et nous aussi, dans la joie et la souffrance, nous allons, j'espère, accomplir ce que Dieu veut de nous. Que nous soyons des saints. Oh, que c'est pas facile. En étudiant l'histoire de l'humanité, nous voyons qu'il s'est fait peu à peu un progrès intérieur. Bon, il y a des natures rudes, des natures riches de toutes les qualités aussi. Marie était l'une de ces âmes riches de toutes les qualités, l'une de ces êtres d'exception, mais d'une façon absolument extraordinaire. Et elle a été vraiment un point exceptionnel, et il a fallu du temps à l'humanité pour produire Marie. Elle est l'aboutissement de ce long cheminement de l'homme pour réaliser ce que Dieu a voulu faire de lui. C'est la joie de notre humanité. si misérable par bien des côtés d'avoir produit cette femme qui est vraiment de notre race et qui a, par la grâce de Dieu, il est vrai, réalisé la perfection de l'être humain. Mais combien de millions d'années a-t-il fallu à la création pour produire Marie? On ne saura jamais. Nous savons simplement qu'un jour est venu, jour où un ange de Dieu a pu dire à une jeune fille, « Tu es l'aimée de Dieu. » Donc, pas nécessaire de faire de Marie une sorte de déesse pour la grandir. C'est pas une déesse. Il suffit de la regarder à la profondeur à laquelle Dieu lui-même l'a regardée. Dieu a tourné vers elle son regard. Il l'a vue toute belle, par la grâce de son amour, toute belle en elle-même. Et cette beauté qui était la sienne, Dieu l'a donnée à Marie pour qu'elle soit sa beauté, sa grâce à elle. Autrement, comment pourrait-il l'aimer ainsi? Pour la rendre plus belle, il l'a rendue plus semblable à lui, mais sans pour autant la sortir de sa condition humaine, c'est sûr. La splendeur de l'homme, c'est la splendeur de Dieu. Oublions jamais ça. Plus l'homme plonge en Dieu ses racines, plus il devient semblable à Dieu, sans cesser d'être une humble créature sortie de ses mains. Tel est le mystère de Marie. C'est le mystère écrit dans le livre de Marie, qui est simplement sa vie. Si Marie a pu concevoir le Fils du Père dans son être de femme, dans son corps de chair, c'est qu'elle était capable de recevoir la semence divine. En parlant ainsi, nous sommes en plein dans la tradition des pères de l'Église. Dans tout être humain, l'Esprit a déjà déposé une semence divine. Oui, nous l'avons, qui fait que tout être humain est enfant de Dieu. Mais dans le cas de Marie, cette semence divine est unique. L'Esprit Saint, dans une opération qui est absolument particulière et personnelle, féconde Marie, qui devient ainsi l'épouse du Père, la mère de son Fils unique. Et l'enfant conçu par la puissance de l'Esprit, c'est la parole, le Verbe, l'image parfaite du Père. Marie a conçu son Fils dans son cœur, dans son esprit, dans sa foi, avant de le concevoir dans sa chair. Elle l'a conçu dans son vouloir le plus profond, quand elle a dit oui, un oui total à la proposition que lui faisait le Père. Marie est donc la première croyante, et nous, sommes-nous capables de dire comme ça oui à Dieu d'une façon totale? Ce serait notre bonheur, c'est le bonheur des saints. Tout ce qui s'accomplit ainsi en Marie est le fruit d'une action de Dieu hors du commun. Or, cette action n'est possible que parce que Marie était déjà naturellement, si je puis parler comme cela, préparée à la recevoir. L'image en elle de la Trinité était aussi parfaite qu'il est possible dans un être humain. Un simple mais tout spécial geste de Dieu vers elle, et Marie est maintenant introduite dans l'intimité divine par son oui. Bien sûr, elle ne vit pas encore en pleine conscience ce grand mystère de la vie au sein de la Trinité. Cela viendra. Pour le moment, c'est Dieu qui vit en son sein. Il se révèle à elle autant que cela est possible dans son humble condition humaine. J'ai le goût de vous lire un petit texte de Thérèse d'Enfant Jésus. C'est l'année du centenaire de sa mort. Que j'aurais donc bien voulu, dit Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, être prête pour prêcher sur la Vierge Marie? Il me semble qu'une seule fois m'aurait suffi pour faire comprendre ma pensée à son sujet. J'aurais d'abord montré à quel point la vie de la Sainte Vierge est peu connue. Je l'ai fait plusieurs fois dans de nombreuses émissions. Je sais. Alors Thérèse de l'Enfant Jésus ajoute, « Il ne faudrait pas dire d'elle, de la Sainte Vierge, des choses invraisemblables ou qu'on ne sait pas. Par exemple, que toute petite, à 3 ans, elle est allée au temple de Jérusalem s'offrir à Dieu avec des sentiments brûlants d'amour et une ferveur extraordinaire, tandis qu'elle y est peut-être allée tout simplement pour obéir à ses parents. » C'est assez sympathique. Et Thérèse d'Enfant Jésus continue. « On montre la Sainte Vierge inabordable. Il faudrait la montrer imitable, pratiquant les vertus cachées. Dire qu'elle vivait de foi. Ben oui, de foi. Comme nous. Il faudra en donner des preuves tirées de l'Évangile, où nous lisons d'ailleurs, « Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. » Je vous ai parlé de ça l'autre jour, lors de la fête de Saint-Joseph. Ou encore, cet autre texte rappelle Thérèse d'Enfant Jésus, Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Cette admiration dénote un certain étonnement, ne trouvez-vous pas? On sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Plus mère que reine. Il ne faudrait pas faire croire, comme je l'ai souvent entendu dire, qu'à cause de ses prérogatives, elle éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil à son lever fait disparaître les étoiles. Mon Dieu, que cela est étrange. Une mère qui fait disparaître la gloire de ses enfants, moi je pense le contraire. Je crois qu'elle augmentera de beaucoup la splendeur des élus. On sait bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas se borner à cela, il faut la faire aimer. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus conclut, « Si en entendant un sermon sur la Sainte Vierge, on est contraint du commencement à la fin de s'exclamer en soi-même et de dire « Ah, ah, on est lassé. » Mais cela ne porte pas à l'amour et à l'imitation. Qui sait même si quelque âme n'irait pas jusqu'à sentir alors un certain éloignement pour une créature tellement supérieure? Le privilège unique de la Sainte Vierge, c'est d'avoir été exempte de la tâche originelle et d'être mère de Dieu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et encore, sur ce dernier point, Jésus nous a dit, « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Et d'autre part, nous sommes plus heureux qu'elle, car elle n'a pas eu de Sainte Vierge à aimer, elle. C'est une telle douceur de plus pour nous, hein? Une telle douceur de moins pour elle. Oh, que je l'aime, la Vierge Marie. Quand on a prié la Sainte Vierge et qu'elle ne nous a pas exaucés, il faut la laisser faire sans insister et ne plus se tourmenter. Voilà Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, toute simple, toute simple. Connaissez-vous le Stabat Mater? On chantait ça durant la Semaine Sainte. Stabat Mater, la mère se tient debout. Je vous en lis des extraits en terminant. Debout, la mère douloureuse, près de la croix, était en larmes, devant son fils suspendu. Dans son âme, qui gémissait, toute brisée, endolorie, le glaive était enfoncé. Qu'elle était triste et affligée, la mère, entre toutes bénies, la mère du Fils unique. Qu'elle avait mal, qu'elle souffrait, la tendre mère, en contemplant son divin Fils tourmenté. Quel est celui qui, sans pleurer, pourrait voir la mère du Christ dans un supplice pareil? Qui pourrait, sans souffrir, comme elle, contempler la mère du Christ douloureuse avec son Fils? Pour les péchés de tout son peuple, elle le vit dans ses tourments, subissant les coups de fouet. Elle vit son enfant très cher mourir dans la désolation alors qu'il rendait l'esprit. Daigne, ô mère, source d'amour, me faire éprouver tes souffrances, pour que je pleure avec toi. Fais quand mon cœur brûle un grand feu, pour mieux aimer le Christ mon Dieu, et que je puisse lui plaire. Ô Sainte Mère, daigne donc graver les plaies du crucifié profondément dans mon cœur. Ton enfant n'était que blessure, lui qui daigna souffrir pour moi. Donne-moi part à ses peines. Quand, bon Fils, je pleure avec lui, qu'avec le Christ en croix je souffre, chacun des jours de ma vie. Oh, être avec toi près de la croix, et ne faire qu'un avec toi, c'est le vœu de ma douleur. Vierge bénie entre les vierges, pour moi, ne sois pas trop sévère, et fais que je souffre avec toi, que je porte la mort du Christ, qu'à sa passion je sois uni, que je médite ses plaies, que de ses plaies je sois blessé, que je m'enivre de la croix et du sang de ton enfant. Pour ne pas brûler dans les flammes, prends ma défense, Vierge Marie, au grand jour du jugement. Christ, quand je partirai d'ici, fais que j'obtienne par ta mère la palme de la victoire. Au moment où mon corps mourra, fais qu'à mon âme soit donnée la gloire du paradis. »